Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Nouveaux affrontements depuis tôt ce matin sur l'axe Bweremana dans le massif au Nord Kivu. Ils opposent l'armée appuyée par les Wazalendo aux rebelles du M23. Des sources concordantes et la société civile locale parlent des détonations d'armes lourdes et légères qui se font entendre. Santé, des cas suspects de méningite signalés à Banalia dans la Tchopo depuis octobre 2024. Téné, cette semaine seulement, on compte 7 cas dont 5 décès. Une équipe médicale est dépêchée sur place en vue d'une intervention, signale la division provinciale de la santé. Et puis, un cas de naufrage et 3 cas de chavirement avec une perte énorme des marchandises ont été enregistrés sur le lac Albert en 2024. Bilan dressé hier par le commissaire lacustre au lac Albert dans un entretien à Radio Capi, Pierre-Marie Oudard Oulama est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Nord Kivu, des nouveaux affrontements ont repris depuis la matinée de ce vendredi sur l'axe Bweremana, groupement Mfunishanga dans le territoire de Masisi. Ces combats opposent les FARDC appuyés par les Wazalendo aux rebelles du M23 sur 3 fronts. Des sources concordantes et celles de la société civile locale parlent des détonations d'armes lourdes et légères qui se font entendre dans la région depuis 5h du matin. Et d'autres affrontements sont aussi signalés dans le groupement Bwabo Mfunikibabi et groupement Bachali Mokoto, toujours dans le Masisi. C'est entre le M23 et les FARDC Wazalendo toujours. Le récit de Denise Lukeso.
Des sources concordantes à Bweremana affirment que les rebelles du M23 venus de la colline d'Endumba ont lancé simultanément les attaques sur 3 fronts ciblant les positions FADC et des Wazalendo à Kiabiondo, Kashenda et Kihindo. Les combats en cours sont concentrés actuellement à Kashenda et Kabassé, contraignant les habitants à fuir. Les bilans provisoires fait état de 2 femmes tuées à Kashenda par des bombes larguées par les M23. D'après toujours ces mêmes sources, l'armée accompagnée des Wazalendo qui contrôle Bweremana résiste pour empêcher l'avancée de l'ennemi qui tente de déborder pour occuper la cité de Minova. D'autre part, les affrontements qui ont commencé hier sur l'axe Lukofu, Kaniro et Kiniki se concentrent à Katale où le M23 a lancé de nouvelles attaques ce matin. Katale, situé à environ 12 km de Masisi Centre, constitue le dernier verrou pour atteindre Masisi Centre. La société civile territoriale de Masisi confirme l'occupation par les rebelles de la cité de Kaniro à l'issue des combats d'hier jeudi qui ont fait un mort et un blessé. D'autres affrontements se déroulent sur l'axe Kaira dans le groupement Bachali Mokoto, chefferie de Bachali. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Par ailleurs, l'année 2024 a été marquée par des événements malheureux à travers toute la province du Nord Kivu. Une crise sécuritaire et économique, elle a été caractérisée par l'occupation de plusieurs villages par les rebelles du M23, mais également par des tueries à répétition, attaques à la grenade, des kidnappings, des naufrages et par des conditions précaires pour les déplacés. Un tableau donc sombre dressé par le consortium Parlement des jeunes, société civile congolaise et mouvements citoyens. C'était lors de la conférence de presse organisée hier à Goma face à cette évaluation. Le consortium appelle à l'action du gouvernement congolais. Il lui demande d'assumer pleinement son rôle en priorisant la sécurité, renforcer la justice et assurer une meilleure gouvernance pour prévenir des nouvelles tragédies. Maître Justin Mouti, président du Parlement des jeunes, explique dans cet extrait choisi par Denise Lukeso.
En conclusion, les événements marquant l'année 2024 dans la ville de Goma mettent en lumière les multiples failles dans la gouvernance de la République démocratique du Congo, l'inaction et le manque de réponses appropriées du gouvernement face à cette tragédie répétée, soulignent une défaillance systématique de ceux qui gèrent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ces événements démontrent une irresponsabilité criante et un manque de volonté politique pour répondre aux attentes de la population. Toutefois, il est impératif que le gouvernement assume pleinement son rôle, tout en décrétant la province du Nord Kivu une province martyre. Le temps est venu pour les autorités congolaises de sortir de l'inertie et de poser des actions concrètes pour restaurer la dignité et assurer la sécurité de la population de Goma et du Nord Kivu en général. À la communauté internationale de ne pas rester indifférente face à cette situation, d'avoir un cœur d'humain pour agir face au chaos que la province du Nord Kivu est en train de traverser.
Le consortium interpelle aussi la population d'être actrice clé du changement. Dans le territoire de Lubero, cependant, nous sommes toujours au Nord Kivu. Malgré les attaques des rébellions du M23 et des EDF, la situation sécuritaire a été relativement calme en 2024. C'est le colonel Alain Kiwewa, administrateur de Lubero, qui l'a dit ce vendredi à Radio Kapi, tout en saluant la bravoure des forces armées de la RDC qui ont permis de garder le contrôle sur Lubero Centre. Le colonel regrette cependant le nombre élevé des personnes qui ont été forcées de fuir leur milieu à cause des attaques des rebelles en 2024. Il lance un SOS au gouvernement ainsi qu'aux organisations humanitaires pour une assistance aux déplacés de guerre vivant actuellement à Lubero Centre et ses environs. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur de Lubero, explique, il est joint par André Kitenge.
La situation sécuritaire actuelle dans le territoire de Lubero, elle est relative. Relative pourquoi? C'est suite à l'agression rwandaise à travers ses supplétifs les M23 au sud du territoire. Et au niveau du nord-ouest, dans le secteur de Bapere et actuellement dans la chefferie de Bassoua, nous assistons aux incursions répétitives de terroristes ADF qui sont en train de semer désolation. Et là également, il y a beaucoup de déplacés également qui quittent maintenant ces zones infectées et se réfugient également dans des zones un peu beaucoup plus sécurisées. La situation dans le centre de Lubero où il y a le chef-lieu du territoire est relativement calme et reste sous contrôle de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Malgré l'afflux de déplacés, j'ai toujours profité pour essayer de faire un plaidoyer pour nous aider ou nous assister en vivre, à non-vivre, en abri et à un appui médical et sanitaire.
Du côté de l'Ituri, la Convention pour le respect des droits de l'homme se félicite des résultats de l'opération Chuja en Ituri pour l'année 2024. Il s'agit des opérations militaires conjointes des armées congolaises et ougandaises contre les rebelles des EDF. Bien qu'il existe encore de nombreux défis à relever dans le cadre de ces opérations, cette organisation de défense des droits humains note une certaine accalmie imposée par cette coalition dans plusieurs entités des territoires du Rumu et de Mambasa. Christophe Mouniane, coordonnateur de la CRDH en Ituri, explique, il est joint par Sadiq Aboubakar.
Nous avons observé une accalmie dans certaines entités occupées par les terroristes ADF. La chefferie de Banyali Tchabi, Baema Mitego ont été libérées. Il y a eu des opérations vers la partie de la chefferie de Walese Vokutu et l'ennemi a pris la direction vers le territoire de Mambasa où ces mêmes opérations ont été lancées. Il y a eu aussi libération de certains otages. Et ce qui est déplorable, c'est que les opérations, tout d'abord, selon notre observation, ont été mal planifiées. Parce qu'on semblait refouler l'ennemi vers d'autres zones là où il y a encore la population. Et c'est de là qu'il menait des attaques contre les populations civiles. Quand nous avons alerté sur la traversée de l'ennemi vers le territoire de Mambasa, et les militaires engagés dans ces opérations Suja n'ont pas pris les mécanismes de voir comment protéger les entités conquises. Et vous verrez, ces dernières semaines du mois de décembre 2024, l'ennemi a multiplié ses attaques sur la RN4, ses anciennes bases dans le territoire du Rumu.
Pour 2025, cet activiste de droits de l'homme recommande le renforcement des effectifs des militaires ougandais et congolais engagés dans ces opérations afin de relancer la traque des rebelles ADF comme cela a été le cas au début de l'opération Shujaa. Direction la ville de Boma au Congo central. 48 heures après les festivités de Nouvel An, la Fédération congolaise des droits de l'homme a présenté à la presse ce vendredi le bilan de la situation sécuritaire avant, pendant et après cette période festive. Dans son rapport, cette structure juge positif ce bilan sécuritaire. Elle félicite et encourage la bravoure dont a fait montre la police nationale congolaise à Boma, la Fédération congolaise des droits de l'homme et développement prie aux autorités compétentes de renforcer la police, tant sur le plan logistique qu'humain. Ce rapport est lu ici par Gabriel Makiese, alias Lac Profond, coordonnateur de cette organisation. Il est au micro de Nana Plurish Mambou.
Nous tenons à présenter un bilan positif. La police de Bomassou, la houlette du commissaire Irbe Paul Mouilambwe, a fait preuve d'une bravoure malgré les difficultés liées aux problèmes d'effectifs et logistiques auxquels elle est confrontée. Avant les fêtes, le commissaire Irbe avec ses troupes était visible sur le terrain pour des actions tant répressives que dissuasives, ce qui a garanti une quiétude dans la ville pendant les jours des fêtes. De ce qui précède, nous prions au gouvernement tant provincial que national de renforcer cette police tant sur le plan humain que logistique devant la permettre à réaliser un travail plus performant au profit de la population. Par ailleurs, nous déplorons les comportements irresponsables de plusieurs parents et tuteurs consistant à laisser les adolescents et adolescentes comme des brebis sans berger en train de vagabonder même pendant des heures tardives dans la ville. Nous exhortons les parents et à tenir leurs responsabilités visant à encadrer et réglementer la promenade de leurs enfants afin de les prévenir à des actes d'inciviques qui constituent en même temps un facteur clé qui défavorise la situation sécuritaire dans notre pays.
Rendons-nous au Kasaï oriental pour parler de cette vive tension entre les habitants des groupements de Bena Mwembia et Bena Shimba dans le territoire de Katanda. D'après les autorités locales, un groupe d'habitants de Bena Mwembia, munis d'armes de guerre et des machettes, ont fait irruption jeudi dans la localité de Bakwamasela dans le groupement de Bena Shimba. Une situation qui a occasionné un déplacement des populations vers le chef-lieu du territoire, affirment les autorités locales. Esther Ndala Fina nous raconte.
Les sources sur place indiquent que quelques habitants de la localité de Bakwamasela dans le groupement de Bena Shimba ont été surpris par leurs voisins de Bena Mwembia munis d'armes de guerre et de machettes. Ces intrus ont tiré quelques coups de feu et incendié certaines maisons tout au long de la rivière Lobilaji avant de se retirer. Les forces de l'ordre venues pour s'enquérir de la situation ont découvert deux corps sans vie dans un champ. Les défunts sont originaires du groupement de Bena Shimba. Les mêmes sources précisent que cette situation a créé une panique au sein de la population qui s'est déplacée en masse vers le chef-lieu du territoire. Rappelons qu'il y a plus d'une année, une équipe mixte d'interposition FRDC-PNC a été déployée dans ce territoire. Cependant, plusieurs éléments de la PNC sont retrouvés en Mbujimayi par manque de rations alimentaires sur place à Katanda, ont-ils signalé. Notons qu'il s'agit ici d'un vieux conflit foncier qui ne cesse d'opposer trois groupements du territoire de Katanda et qui a déjà causé plus d'une centaine de morts. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, le commandant des FARDC lance un appel à tout militaire se trouvant en transit à Kindu, soit pour raison de maladie ou de congé, de se faire identifier au camp Luama. Le capitaine Tamwe Makoyo indique que c'est pour assurer une bonne sécurisation des populations et de leurs biens. On écoute le capitaine Tamwe Makoyo du centre d'entraînement commando Luama dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Je suis devant la presse et apporter un message venant du commandant garnison à l'intérim et commandant placé à Kindu, le colonel Mufumbi JC, s'adressant à tous les militaires se trouvant ici à la ville de Kindu en raison 1. Aux soins médicaux, si un militaire qui se trouve ici pour les soins médicaux, en transit, s'il est de passage vers une autre zone ou bien il veut rejoindre son unité, et aussi il est venu pour son visite familiale. Alors, tout militaire de se présenter au bureau du commandant garnison au Kaluama pour présenter cette feuille de route et après ce délai, si la personne ne se présente pas, l'auditorat fera son travail. Ce travail, c'est juste identifier tout militaire qui est ici à Kindu illégalement ou bien légalement. Alors, à partir de ces documents, feuille de routes ou bien les notes, les attestations militaires, c'est par là on saura que ce militaire il est à l'ordre ici à la ville de Kindu. Militairement, tout d'abord, le service intérieur travaille, mais eux, il peut y avoir les malades à l'hôpital selon des raisons, il peut rester à la maison, mais le délai c'est 72 heures. Voilà le délai.
Santé, je vous l'ai dit dans les titres, des cas suspects de méningite sont rapportés dans la zone de santé de Banalia, précisément dans l'agglomération de Mangi. Banalia est située à 128 km au nord de Kisangani. Depuis octobre 2024, déclare le service de communication de la division provinciale de la santé, des cas suspects de méningite sont signalés dans la communauté. Pour faire face à cette situation, une équipe du personnel médical a été dépêchée sur les lieux en vue d'une intervention. Jacques Moukonkole, reporter.
Au début de cette semaine, un superviseur de la zone de santé de Banalia a rapporté 7 cas de cette maladie, dont 5 décès. Les signes que présentent les malades sont similaires à ceux de la méningite. Selon Jojo Bolemé, les cas sont nombreux dans la communauté avec toutes les conséquences sanitaires que cela implique. Toujours selon lui, les malades sont soignés traditionnellement puisque la population manque de culture médicale. Les prélèvements effectués auprès de certains malades ont été expédiés à l'INRB à Kinshasa pour déterminer la nature de cette maladie. Par rapport à ces prélèvements, la division provinciale de la santé déplore la lenteur avec laquelle les résultats sont communiqués à l'intérieur de la province. Qu'à cela ne tienne, John Mundele, chargé de la communication dans ce service, déclare qu'une équipe médicale est dépêchée sur les lieux pour la prise en charge des malades. Une fois les résultats connus, ils seront fixés sur la nature de cette maladie, dont les signes s'apparentent à ceux de la méningite. Si le seuil exigé est atteint, dit-il, le gouverneur de province sera appelé à se prononcer clairement et officiellement sur la maladie en question. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Mali. L'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga sera-t-il inquiété par la justice? En tout cas, un rapport du bureau du vérificateur général du Mali l'accuse des pratiques douteuses et d'abus financiers dans la gestion des fonds publics. Deux événements spécifiques le mettent en cause. Une cérémonie d'inauguration à Konobougou le 9 décembre 2023 et le lancement d'un projet pilote d'extension du réseau de télécommunications entre le 27 et le 28 décembre de la même année. Au total, Choguel Kokala Maïga se serait attribué plus de $55,000 pour ses frais de mission. En plus de ces frais, le rapport met en lumière d'autres irrégularités importantes. Et puis, le Conseil de sécurité des Nations Unies a officiellement accueilli jeudi 5 nouveaux membres non permanents pour la période 2025-2026. Il s'agit du Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie. Ces pays ont été élus lors de la cérémonie d'installation des drapeaux des nouveaux membres, marquant ainsi leur entrée dans l'organe décisionnel clé de l'ONU.
L'invité.
Un cas de naufrage et trois cas de chavirement avec une perte énorme des marchandises ont été enregistrés sur le lac Albert en 2024. Bilan dressé hier par le commissaire lacustre au lac Albert dans un entretien Radio Capi. Au-delà des efforts locaux pour limiter les cas d'accidents lacustre, Pierre-Marie Oudar Oulama affirme que le manque de ports au lac Albert est un défi important à relever. Invité de ce journal, il répond aux questions de Sadiq Aboubakar.
Pierre-Marie Oudar Oulama, bonjour.
Bonjour.
Quel est le bilan de la navigation sur le lac Albert pour l'année 2024?
Nous avons connu seulement un seul cas de naufrage d'une embarcation qui quittait l'Ouganda, dont les dommages étaient la mort de deux personnes. Une maman avec son fils et puis la perte de 30 tonnes de haricots. Et c'était sur la rive ougandaise. La cause était le vent violent. Et d'autres cas que j'ai enregistrés au port de Kassegni, c'est le chavirement de trois embarcations au port de Kassegni sur place au mois de septembre suite à l'orage. L'orage, c'est le vent violent qui arrive brusquement et les trois embarcations étaient au port en train de décharger. Surtout que nous n'avons pas de port, le bateau accoste sur la terre ferme. Et ce sont quel type de bateaux? Ce sont les bateaux à bois. Alors imaginez le sort quand ils doivent faire des manœuvres. C'est ce qui a créé le chavirement des trois embarcations dont les dommages étaient pertes de ciment, de divers. Pour l'année 2024 écoulée, en tout cas nous n'avons pas connu beaucoup d'accidents sur le lac parce qu'on a veillé à cela. Nous avons vraiment été stricts. Contrôler le départ, l'arrivée, le chargement de personnes et de biens sur le lac Albert. Nous avons même harmonisé, grâce au concours de son excellence monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, qui nous a envoyé en Ouganda pour harmoniser avec les collègues des deux ports, de Toroko et de Bouguma, ce qui nous a facilité. On n'a pas enregistré beaucoup de naufrages, ni de chavirements, ni des accidents sur le lac Albert.
En dehors des naufrages et chavirements des embarcations, qu'en est-il des cas de noyade?
C'est vers les îles de Lukwanzi. Les îles de Lukwanzi, c'est l'île marécagée qui se trouve à la limite sur le lac Albert entre l'Ouganda et le Congo. Là, nous avons enregistré les noyades des 20 pêcheurs. Suite à quoi? Suite à l'ivresse Donc, ils ont construit des cases sur le marécage et quand ils prennent de la boisson alcoolique, ils ne se contrôlent plus. Ils descendent parfois, ils croient qu'ils sont sur la terre ferme, chercher à marcher comme ça. Alors, c'est ce qui occasionne la mort de plusieurs personnes. Ces îles-là, il y avait des sables là-bas. Mais maintenant, suite à la montée des eaux du lac Albert, les gens habitent sur l'eau. Donc, c'est grave. C'est un lieu déjà qui est devenu très dangereux pour l'habitation des personnes. Donc, la terre ferme ne se fait plus voir suite à la montée des eaux du lac Albert. C'est ainsi qu'ils ont créé des cases sur l'eau. Donc, c'est ça le danger qui se fait voir à Rukwanzi.
Vous avez dit au début que le lac Albert ne disposait pas de port. Comment expliquez-vous cela?
Monsieur le journaliste, à Kasséni, il n'y a pas de port. Les quais créés depuis 1942 par le Belge est immergé sous l'eau depuis 2019 jusqu'à ce jour. Les quais de port de Mahagia Port est immergé sous l'eau depuis 1966. Donc, les catastrophes sur le lac Albert, c'est le manque de port. Pendant que les activités des transports sont à grande échelle, il y a des véhicules qui viennent du Sud-Soudan, les véhicules du Kenya, les véhicules de Tanzanie, les véhicules de l'Ouganda. Mais quand ça arrive au port de Congo, à Kasséni, à Tchomia, nous enregistrons des chavirements parce qu'il n'y a pas des endroits conformes pour recevoir toutes ces embarcations-là et tous ces bateaux-là. Voilà le plaidoyer. Je demande au gouvernement de songer à construire ne fût-ce qu'un quai alors par territoire, à Kasséni, à Tchomia et à Mahagi Port. Vraiment, ça sera un signe de développement dans la province de l'Ituri. Monsieur le journaliste.
D'après vous, pour terminer, quelle est l'importance d'avoir des ports modernes au lac Albert?
D'ailleurs, monsieur le journaliste, les marchandises qui viennent du Kenya, de Tanzanie, qui viennent de l'Ouganda, ça ne se limite pas seulement à Ituri. Ça progresse jusqu'à la province de Tchopo, de Haut-Ouélé, jusqu'à la province de Bas-Ouélé. Donc, la voie lacustre à Ituri, c'est vraiment en grande importance. Vraiment, son excellence, monsieur le vice-premier ministre, le ministre des Transports et Voies de Communication, s'il m'écoutait à la radio au Capi, envoyait ne fût-ce que d'abord des experts pour venir vérifier tout ce que j'ai dit là, il y a quelque chose qu'on doit arranger à Ituri en ce qui concerne le transport par voie d'eau.
Pierre-Marie Oudar Oulama, merci.
Merci.
Voilà, c'était là notre invité, le commissaire lacustre au lac Albert. Il répondait aux questions de Sadiki Aboubakar. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta et Blaise Shindani Kambala. Alain Ngoy à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.